à Machiavel comme nom de toute la théorie gramscienne de la politique. Comme nom qu'il donne à sa pensée strictement politique. Alors, cette idée de Machiavel, alors, qui est donc de Marx, qui est le Machiavel du prolétariat, elle est intégrée et elle est répercutée par Gramsci dans un texte qui précède immédiatement son arrestation. Hein, donc elle n'apparaît pas en prison, elle est déjà présente avant la prison. Dans ce texte donc du 13 octobre 26, que vous avez là, donc c'est le premier texte de la liste, hein, dans lequel dit voilà, nous les communistes, nous avons des principes, nous avons une doctrine, nous avons des fins concrètes à réaliser. Ce n'est que en relation avec nos principes, avec notre doctrine, avec les fins que nous, les objectifs que nous devons atteindre, que nous décidons de notre ligne politique réelle. Notre Machiavel, ce sont les œuvres de Marx et de Lénine. Notre Machiavel, ce sont les œuvres de Marx et de Lénine. Donc, ce rapport direct de Machiavel à Marx et de Machiavel servant à dire l'action politique en lien avec la doctrine politique, hein, l'application politique d'une doctrine politique, apparaît ici, mais vient au départ de Croce, hein, de Benedetto Croce, dont le livre paru à la toute fin du XIXe siècle, hein, intitulé donc « Matérialisme historique et économie marxiste », et qui est un livre d'un non-marxiste, de quelqu'un qui ne se définit pas du tout comme marxiste, mais qui considère que la pensée de Marx est indispensable et qu'il faut à la fois la comprendre et en garder, en conserver tout ce qui peut intéresser, y compris les libéraux. Donc, qui est une forme de ce qu'on appelle à ce moment-là, c'est tout à fait juste, de révisionnisme de Marx, hein, de Marx révisé. Ce texte-là, il nourrit toute la pensée politique italienne de la première partie du XXe siècle, et il nourrit notamment, en partie, Gramsci. Et alors, dans ce texte, donc Croce, donc en 1897, avait écrit que Marx enseigne à pénétrer in ciò che è la società nella sua realtà effettuale. Hein. Il nous enseigne à pénétrer à l'intérieur de ce qu'est la société dans sa réalité effective. Et quand Croce a écrit ça, il sait très bien que le syntagme realtà effettuale, réalité effective, fait penser tout de suite, du moins pour tout Italien cultivé, à Machiavel. Voilà, la vérité effective, la réalité effective, etc. Et tout de suite après, il dit, et d'ailleurs, à ce propos, Je mi meraviglio come nessuno finora abbia pensato a chiamarlo, a titolo di onore, il Machiavelli del prolétariat. Je m'étonne que jusqu'à présent, personne n'ait pensé appeler Marx, à titre honorifique, hein, c'est ironique évidemment, mais le Machiavel du prolétariat. Machiavel du prolétariat. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que la différence d'approche que Koch est d'une part et Gramsci d'autre part ont vis-à-vis de ce parallèle et de cet éclaircissement quoi, hein, de cet éclairage, disons, de Marx par Machiavel, hein, parallèle Machiavel-Marx, c'est que pour Koch, Machiavel fait sens comme analyste, hein, analyste réaliste du monde social et politique, alors que pour Gramsci, dès le départ, ce qui fait le plus sens, c'est Machiavel comme étant celui qui produit des œuvres qui sont des œuvres pour l'action, des œuvres pour agir, qui sont des œuvres en ce sens, qui sont elles-mêmes, y compris dans leur dimension la plus théorique, des œuvres éminemment politiques. Voilà. C'est parce que il produit une doctrine qui nous donne des fins politiques, qui nous donne des objectifs politiques à atteindre, et que c'est ça que nous suivons, dit Gramsci, que Marx est notre Machiavel. Voilà. Alors, au début des cahiers, hein, à partir même avant les cahiers, mais au début de la prison, à partir du moment où, dès les lettres, hein, Gramsci commence à énoncer des programmes de travail, hein, du travail à faire en prison pour lui, avec l'idée qu'il va pouvoir écrire, ce qui, comme vous le savez, hein, n'arrive pas avant 1929. Bon, bah, dans ces premiers programmes, que ce soit ceux qu'on trouve dans les lettres ou ceux qu'on trouve dans le début des cahiers, Machiavel n'apparaît pas encore véritablement. Mais il est présent dès 1927, dans les lettres. 1927, pourquoi ? Bah, 1927, c'est le centenaire de la mort de Machiavel. Hein, c'est les 400 ans de la mort de Machiavel, donc en 1527. Et évidemment, comme à chaque fois qu'il y a des centenaires de ce type-là, des anniversaires de la naissance ou de la mort des grands auteurs, il y a toute une série à la fois de commémorations et puis de textes qui sont publiés, et tout particulièrement sous le fascisme, hein, parce que les commémorations de grands intellectuels italiens sous le fascisme était quelque chose de particulièrement important, hein, notamment pour l'affirmation du régime, sa légitimité, etc. etc. Tant et si bien que vous savez que Mussolini lui-même écrit, hein, une introduction au prince de Machiavel, et se présente un peu de toute manière comme le nouveau prince machiavélien de l'Italie moderne. Alors, dans la lettre du 14 novembre 1927, hein, que vous avez là, à donc sa belle-sœur, à Tania, il demande une édition anthologique des œuvres de Machiavel, et souligne un point, hein, qui l'a frappé, au moment où il a lu dans le courant, enfin dans le courant de l'année 27 et en particulier printemps 27, c'est les différents textes qui ont paru sur Machiavel. Il dit que il a été frappé qu'aucun de ceux qui ont écrit à cette occasion ait mis en relation les livres de Machiavel avec le développement des États dans toute l'Europe à la même période. Détourné par le problème purement moraliste du soi-disant machiavélisme, ou de ce qu'on appelle le machiavélisme, ils n'ont pas vu que Machiavel a été le théoricien des États nationaux gouvernés sous la forme de la monarchie absolue. C'est-à-dire que Machiavel, en Italie, et c'est encore le texte hein, de Gramsci là, que je lis, c'est-à-dire qu'en Italie, Machiavel théorisait ce qui était énergiquement accompli en Angleterre par Élisabeth, la reine Élisabeth. En Espagne, bon alors là il y a un anachronisme complet, mais lui il raisonne là sur la longue durée, c'est-à-dire qu'il parle de la deuxième partie du XVIe siècle, alors que Machiavel est au début du XVIe siècle, hein. Mais ça n'a pas grande importance du point de vue du contenu, hein. C'est-à-dire voilà, l'action d'unification nationale sous un gouvernement monarchique de l'Angleterre à ce moment-là, de l'Espagne à ce moment-là, à l'époque de Ferdinand le Catholique, et en France par Louis XI, alors là, pour le coup, on repasse au XVe siècle, hein, en Russie par Ivan le Terrible, voilà. Même s'il ne connut pas ou ne put pas connaître certaines de ses expériences nationales, ces expériences nationales étaient en réalité, représentaient en réalité le problème historique de l'époque que Machiavel eut le génie de pressentir ou de comprendre, hein, dont il a eu l'intuition géniale, si vous voulez, et le génie donc d'exposer systématiquement. D'accord ? Voilà. Donc là, on voit qu'on a une évolution de la perspective à partir de cette réflexion que Gramsci mène en prison avant même de pouvoir commencer à rédiger le cahier, et qui est liée évidemment à la présence très forte, en réalité, de la question machiavélienne dans la presse de l'époque et dans le débat politique et intellectuel, hein, sous le fascisme. Ce qui frappe Gramsci, contrairement à la plupart des commentateurs qu'il a pu lire, c'est la dimension historico-politique ancrée dans l'Europe de son temps, hein, de Machiavel. Un Machiavel qui sait penser les grands problèmes historiques de son époque, c'est-à-dire la construction des États nationaux, ou la première construction des États nationaux à l'époque de l'absolutisme naissant. D'accord ? Donc ça, c'est... Voilà. Après, Marx, le Machiavel, prolétariat, c'était... Là, c'est le deuxième point. À noter qui apparaît des 27 et qui est un point qui va rester, hein. Tous ces différents points vont rester, ça va continuer à alimenter sa réflexion du long. Troisième point maintenant, point extrêmement important, je vais passer vite parce que évidemment c'est là-dessus que Jean-Claude va revenir, c'est l'idée selon laquelle Machiavel a déjà su penser l'alliance avec les classes productives, l'alliance en particulier avec les paysans à l'époque. Et l'alliance en gros de la bourgeoisie des cités avec les gens du contado, le contado, la notion de contado dans les cités italiennes de l'époque, c'est la campagne, le pays environnant, immédiatement environnant, sous la domination, sous la juridiction de la cité dominante, la cité centrale. Donc les contadini, contadini qui veut dire paysan, c'est les gens du contado. Donc c'est l'idée d'un appui nécessaire pour l'action politique du prince sur les classes populaires et avant tout sur les paysans. L'importance du peuple et à l'intérieur même du peuple, ou en lien avec le peuple des paysans. Alors, on ne va pas lire tout le passage du dixième paragraphe du cahier 1. Donc vous voyez que là, c'est le tout début, c'est juin-juillet 1929, mais c'est pour vous dire que dès cette note, ou une des toutes premières notes des cahiers, il réfléchit notamment sur Machiavel, entièrement sur Machiavel. La note s'intitule « Sous Machiavel », sur Machiavel. Il dit notamment qu'il fait référence à, alors c'est en gras dans le texte, l'indication de classe contenue dans l'art de la guerre. Et il fait référence là au fait que dans l'art de la guerre, c'est pas le seul endroit, mais là c'est dit très très clairement, Gramsci explique que donc il faut lutter contre les armées, il ne faut pas reproduire des armées de mercenaires, les armées doivent être des armées de la cité, du pays, avec des composés de sujets de son propre état, l'état du prince ou de la république, quoi. Et essentiellement, les soldats doivent être des contadini, des paysans du contado. Donc c'est à ça qu'il fait référence que fait référence Gramsci quand il dit l'indication de classe contenue dans l'art de la guerre doit être comprise pour la structure générale de l'État. C'est-à-dire que doit être entendue au sens où elle doit être appliquée non seulement à la question militaire, mais à la question politique dans son ensemble, à la question politico-militaire dans son ensemble, pour tout l'État. Si, et il explique, si les bourgeois de la ville veulent mettre fin au désordre intérieur et à l'anarchie extérieure, ils doivent s'appuyer sur les contadini, sur les paysans, en tant que masse. Et cela en constituant une force armée sûre et fidèle. Donc vous voyez que ce point qui apparaît extrêmement tôt dans les cahiers, c'est dès la dixième note du premier cahier. Voilà. Là va être un point absolument essentiel et sur la longue durée. Jean-Claude va revenir dessus. C'est sans doute un des points les plus décisifs. C'est-à-dire que Machiavel pour Gramsci va être le nom d'une politique d'alliance de classe. D'une politique, d'alliance de classe dans un sens démocratique, c'est-à-dire d'une alliance avec le peuple, le fait que c'est en s'alliant et en intégrant d'une certaine manière dans l'État et dans la structure militaire de l'État le peuple dans son entier, que eh bien toute une série de choses, en tout cas que les progrès politiques peuvent avoir lieu, qu'il s'agisse de la question de créer un grand État en Italie centrale. Hein. Il ne s'agit pas d'unifier l'Italie. Hein. Jamais pensé ça, Machiavel, créer une unité de l'Italie complète. Non, il pensait qu'il fallait, pour résister justement aux grandes monarchies nationales, qui à l'époque, alors c'était pas que des grandes monarchies nationales, mais c'était quand même essentiellement la France contre l'Espagne, quoi, hein, qui se battait au moment des guerres d'Italie sur le terrain italien et eh bien, était dans une dynamique de conquête, hein, complète de la totalité des États italiens qui perdaient les uns après les autres toute forme de liberté. Hein. Eh bien, pour cela, il faut s'appuyer sur la totalité de la population, les paysans, etc. Et ça marche, ça fonctionne à partir d'une politique militaire spécifique. C'est-à-dire là-dedans, le fait d'intégrer le peuple dans l'armée et de faire une armée qui soit une armée populaire et de la patrie, hein, issue de la patrie, est indispensable. Voilà. Et vous voyez aussi que c'est étroitement lié à des questions qu'on a vues et qui sont absolument centrales, qui sont l'hégémonie dans son premier sens. L'hégémonie dans son premier sens, c'est l'alliance des ouvriers et des paysans. D'une certaine manière, on pourrait aller... ce serait peut-être exagéré, parce que je ne dis pas comme ça, mais il voit dans Machiavel des choses qui sont ce qu'il voit très positivement dans Lénine et ce qu'il pense qu'il faut mettre en place encore aujourd'hui. Quoi. Voilà. Et là, on a un peu plus loin dans le cahier, hein, paragraphe 44, il revient sur la question de la centralité de l'articulation entre la ville et la campagne, hein, chez Machiavel, et cet enjeu, c'est donc celui d'une politique démocratique. Il écrit « Sans une politique démocratique, on ne peut pas avoir d'armée nationale dont à conscription obligatoire. » Hein, et il fait le parallèle déjà dès ce moment-là entre ce que voulait Machiavel et ce que voulaient les Jacobins. Je passe, on y reviendra tout à l'heure. Donc là, on était essentiellement hein, à l'été, au début de l'été 29, avec la note 10. On arrive à une étape ultérieure, donc avec le cahier 4, en mai 1930, à un moment où... donc Machiavel développe une autre idée particulièrement intéressante à partir de Gramsci développe une autre idée à partir de Machiavel, hein, l'idée selon laquelle le prince est écrit pour les classes progressistes qui traditionnellement ne savent pas comment on gouverne. Donc, pour les classes progressistes qui ne sont pas les classes de gouvernement traditionnelles, qui n'appartiennent pas à la classe dirigeante originellement, si vous voulez. Hein, pour qui n'en sa, hein, pour qui ne sait pas. Le prince est écrit pour qui ne sait pas comment ça fonctionne. Alors, c'est sa manière, la manière dont il répond à quelque chose qui est une vieille question qui traverse toute l'histoire de la pensée politique depuis Machiavel jusqu'à encore aujourd'hui. Hein, savoir pour qui est écrit Le Prince? Pour qui est écrit Le Prince? Apparemment, il est écrit pour le prince, entre guillemets, parce qu'il n'avait pas un statut de prince, mais bon, en tout cas pour le chef de Médicis, hein, qui dirige ou est censé diriger Florence au moment où il écrit, donc après la chute de la République florentine, hein, à partir de 1513, 1514. Mais en même temps, il y a toute une tradition de lecture républicaine qui a aussi toute une grande part de légitimité, hein, de l'interprétation du prince. Machiavel étant fondamentalement républicain, un agent de la, enfin, je veux dire, un des premiers hommes politiques de la République entre 1498 et 1512, l'ensemble de sa production étant une production républicaine, comment on comprend le sens même du prince, hein, qui a l'air d'être que l'on peut lire comme un traité tyrannique, que certains lisent comme un traité d'apprentissage des méthodes tyranniques. Donc, voilà, ça c'est un grand, grand sujet. Et l'interprétation républicaine, qu'on appelle aussi l'interprétation oblique, hein, dit. Non, mais en réalité, il écrit ça pour le prince officiellement, mais en réalité, il l'écrit pour le peuple et pour les républicains, pour qu'ils sachent déjouer les méthodes tyranniques des princes, etc., etc. Bon. Ce qui est une belle interprétation, mais qui est largement fausse aussi. L'interprétation de Gramsci, elle est intéressante ici. Elle consiste pas à dire non, il écrirait pour les républicains qui voudraient renverser le prince, mais il écrit pour en gros pour le peuple, pour que le peuple et pour les, alors, le peuple au sens de l'époque, c'est-à-dire pour les hommes de gouvernement qui seraient issus, alors, il ne s'agit pas du tout du peuple, hein, il s'agit plutôt de grandes familles, de grandes familles de l'époque, mais en tout cas qui prennent, qui ne sont pas des hommes de pouvoir et qui prennent le pouvoir ou qui sont amenés, à qui on donne le pouvoir dans un sens progressiste, hein, et c'est le cas du chef de. Enfin, c'est le cas, en tout cas, dans l'interprétation de Gramsci. Mais on peut dire que c'est le cas de Piero Soderini, qui est le gonfalonier à vie. Hein, gonfalonier à vie, c'est-à-dire, en gros, le président, si vous voulez, de la République florentine à partir de 1502 et jusqu'en 1512, dont Machiavel est un proche et que pour lequel Machiavel travaille, hein, alors même s'il y était il était en fonction avant que Soderini n'y arrive, mais il est proche de Soderini. En gros, c'est pour des gens comme ça, tiens, des gens qui vont faire, il appelle ça des progressistes ici, donc c'est pas forcément des hommes du peuple, mais c'est des gens qui vont aller dans un sens d'alliance, en gros, d'alliance du pouvoir avec le peuple, qui est la grande idée de Machiavel. Hein. Quelle que soit la forme de gouvernement, républicaine ou principale, etc., ce qui importe, c'est de toujours, toujours, toujours préserver une alliance avec le peuple, sous-entendu avec le peuple plutôt qu'avec les grands, avec la classe populaire plutôt qu'avec la classe. Et traditionnellement, la classe dirigeante, aristocratique. Voilà. Alors, c'est tout le texte, la note 8 du cahier 4. s'agit de lire juste des parties qui sont en gras. Hein. Donc Machiavel lui-même remarque que les choses qu'il écrit sont appliquées et ont toujours été appliquées. Il ne veut donc pas les suggérer à ceux qui les savent, hein, à qui déjà ça, à ceux qui les connaissent déjà. Et il ne s'agit pas pour lui, enfin, il ne faut pas penser que pour lui, il s'agisse d'une pure activité scientifique, entre guillemets. Ce n'est pas du tout le cas. Machiavel pense donc à qui n'en sait, hein, à qui ne sait pas. À ceux qui ne sont pas nés dans la tradition des hommes de gouvernement, chez qui l'ensemble de l'éducation de fait unie avec leurs intérêts de famille, dynastique et patrimoniaux, ceux qui donc sont conduits à qui n'en est là, toi. Comment il construit sa phrase là? Il dit qu'on était porta ad arrecate del politico realistico. Oui, donc ceux qui donc c'est pas fait pour ceux qui étant dans la tradition des hommes de gouvernement sont déjà dans celle des, enfin, sont des politiques réalistes, hein, déjà dans le réalisme politique, si vous voulez. Et qui est-ce qui ne sait pas, demande-t-il, la classe révolutionnaire de l'époque, le peuple, entre guillemets, et la nation, entre guillemets, italienne, la démocratie que exprime de son propre... Hein, qui exprime, oui, qui est, oui, tout à fait, qui exprime de son propre sein des Pierre Soderini, entre guillemets, hein, des gens comme Pierre Soderini, et non pas des... Alors, Valentini, c'est des César Borgia. Hein, César Borgia, fils de pape. fils de pape, comme il en fut un certain
nombre. Bastardo schiaricato, figliolo d'un prete.
Voilà.
Lo dicevano i fiorentini, ouais. Quando arrivò alla porta di Firenze, qualche chilometro, si fece una pratica e allora... Lo lasciamo entrare, come? Sto bastardo schiaricato, donc bâtard, il s'est défroqué, et fils d'un prêtre, c'était le fils du pape Alexandre VI. Et donc ils ont décidé de ne pas lui ouvrir, mais enfin, ils ont, malgré tout, un peu, voilà, c'était un peu chaud, quoi, pour eux, mais bon.
Voilà. Alors bon, là, l'interprétation est complètement gramscienne, hein, parce que la façon dont il oppose Soderini à César Borgia... On pourrait aussi émettre quelques doutes, mais en tout cas, c'est dans ce sens-là, c'est dans le sens de une politique pour ceux qui sont du côté du peuple, quoi. Hein. Le Machiavel veut faire l'éducation de cette classe, d'où doit naître un chef, un capo. Oui.
C'est vraiment l'idée que la bourgeoisie italienne a raté son coup parce que justement elle n'a pas été capable de passer à quelque chose qui était aussi l'hégémonie. Et donc voilà. Et vraiment, ça, il le dit très très clairement. Ouais. Dans la deuxième version, il dit pas seulement Pierre Soderini contre Cesare Borgia,
Savonarole.
Savonarole contre. Ouais. C'est vraiment cette idée-là, quoi. Tu vois. Ils peuvent pas. Ils n'ont pas réussi à passer à une conception de un fonctionnement de l'État qui réunisse les deux, la société civile et la société politique, l'hégémonie et la coercition. Parce qu'ils n'ont pas réussi à faire le lien avec ce qui est la force fondamentale de l'époque, de la paysannerie.
C'est bon ? Vous avez des questions, non ? Donc ça discute un max. Là. Vous avez des questions ?
Non, c'est bon.
Non ? Bon. Voilà. Donc Ça, c'était le quatrième point. Cinquième point, au même moment, toujours dans les mêmes notes à peu près du cahier 4, toujours en mai 1930, apparaît une idée qui va être amplifiée deux ans plus tard, hein, un peu moins de deux ans plus tard, qui est celle qu'il faut écrire un nouveau prince. Donc il se met à réfléchir sur Machiavel en prenant le prince de Machiavel comme un modèle dont s'inspirer pour écrire aujourd'hui le traité politique nécessaire à l'action politique communiste. Alors, c'est deux notes plus tard, hein, c'est la note 10 du cahier 4, qui est importante, hein, qui est à lire dans son ensemble, parce qu'elle définit l'ensemble du programme de travail à faire sur Machiavel, toujours avec cette idée d'un parallèle entre Machiavel et Marx. Et donc, il dit tout de suite que plusieurs lignes de travail peuvent être dégagées, et en particulier cette idée de la constitution d'un nouveau prince, d'un livre donc qui présente, écrit-il, un système ordonné de politique actuelle, du type prince, et qui traitera du parti, mais du parti qui veut fonder un État, un nouvel État. Hein, donc le prince devient le nom, ce qui chez Machiavel est prince, le prince, est chez Marx, chez Gramsci, pardon, le parti. Et évidemment, quand il dit le parti, mais attention, pas n'importe quel parti, le parti qui veut fonder un nouvel État, c'est bon, évidemment le parti communiste dont il est question là. Mais c'est dans cette articulation entre parti et État nouveau, qui est exactement la même que celle de Machiavel. Machiavel n'écrit pas un traité sur le prince en général, il écrit un traité sur le prince qui, dans certaines conditions, qui sont les conditions actuelles de l'Italie, hein, les conditions de l'Italie en 1513, veut créer un État nouveau. Voilà. Donc on a tout ce passage, hein, que je vous ai donné, je dis juste donc un livre qui tirerait, hein, qui tirerait des doctrines marxistes un système ordonné de politique actuelle du type prince. Le sujet serait le parti politique, non pas le parti comme catégorie sociologique, hein. Donc attention, c'est pas du tout le parti comme des gens qui lit et qui critiquent, mais qui l'intéressent beaucoup, comme Max Weber ou Michels, au même moment, traitent la question du parti. Non, c'est le parti en tant qu'il veut fonder l'État. Alors là, on a à ce moment-là, il faut bien voir que à ce moment du cahier 4, et du printemps donc 1930, il y a un vrai saut qualitatif dans son rapport dans le rapport de Gramsci à Machiavel, c'est-à-dire que les premiers, alors que les premiers textes parlaient de parallèles, d'inspiration, d'intérêt très fort pour ce que Machiavel avait fait et interprété dans un sens qui est celui de l'hégémonie et de l'alliance avec le peuple. Ici, il y a l'idée que Machiavel est à placer vraiment au cœur de la pensée de la philosophie de la praxis, hein, au cœur de la pensée de Gramsci sur Marx et le marxisme, et au cœur de la façon dont on doit repenser le marxisme, le prince faisant désormais figure de modèle d'écriture de traité politique sur le parti. Et c'est à partir de 1930 justement que, alors plutôt de la fin de la fin de l'année, hein, on voit ça dans la première page du cahier 8 qui annonce les saggi principali, hein, une liste des principaux des principaux essais à composer dans le cadre de cette écriture des cahiers, hein, comme on voit Machiavel apparaître deux fois, hein, à plusieurs reprises. Voilà. Alors, toujours en 1930, et à ce moment-là précisément, novembre 1930, autre fait quand même particulièrement marquant, donc au cahier 5, cette fois-ci, la première fois où Gramsci, dans les cahiers, utilise l'expression philosophie de la praxis, hein, c'est la toute première fois, il n'utilise jamais auparavant. La toute première occurrence de philosophie de la praxis qui va devenir le nom, qui n'est pas encore à ce moment-là, mais qui va devenir le nom du marxisme, du matérialisme historique tel que lui, Gramsci, le pense. Hein. Eh bien, il l'utilise pour désigner la pensée de Machiavel. Hein, la pensée de Machiavel comme philosophie de la praxis. Donc c'est la note 127 du cahier 5, hein, que vous avez aussi, qui développe une présentation donc, du prince comme livre d'action, livre pour l'action, et donc sa philosophie comme une pensée, une philosophie, une théorie, oui, mais en tant qu'elle est philosophie de la praxis. Le Machiavel a écrit des livres d'action politique immédiate, dit-il entre guillemets, il n'a pas écrit d'utopie où l'État où serait imaginé un État déjà constitué avec toutes ses fonctions, ses éléments constitués, etc. Mais il a exprimé une conception du monde originale qu'on pourrait elle aussi appeler philosophie de la praxis. Elle aussi appelée philosophie de la praxis ou néo-humanisme, en tant qu'elle ne reconnaît aucun élément transcendantal ou immanentiste au sens métaphysique, mais se base entièrement sur l'action concrète de l'homme qui œuvre, opère, hein, et transforme la réalité pour ses propres nécessités historiques. Alors, c'est là, pourquoi il dit philosophie de la praxis ? Parce que c'est une expression qu'il connaît, qui n'est pas nouvelle, qui ne va pas être inventée par Gramsci, mais d'une certaine manière peut-être un peu réinventée, en tout cas re-sémantisée. Mais philosophie de la praxis, c'est le nom que Labriole, dans un de ses textes, a donné au marxisme. Antonio Labriole, qui, si vous voulez, avant Gramsci, en Italie, il y a, au XIXe siècle, un très grand penseur, un philosophe, marxiste, qui est Antonio Labriola, qui a été un des maîtres de Croce, d'ailleurs, hein, qui a enseigné entre Naples et Rome. Qui est très important pour Gramsci, qui était un des correspondants d'Engels, qui était quelqu'un qui était important comme théoricien au sein de ce qui était alors évidemment le Parti socialiste, hein, le Parti communiste, n'existait pas du tout. Dont s'inspire Gramsci. Alors, une philosophie de la praxis. Pourquoi ? Parce que c'est une le prince est une pensée, une théorie pour l'action, pensée pour l'action politique immédiate, sur des bases qui sont des bases, alors certains disent réalistes, typiques du réalisme politique, qu'on peut dire complètement sécularisé. Aujourd'hui, pour dire, hein, enfin, il dit, qui ne reconnaît pas d'éléments transcendantaux ou immanentistes au sens métaphysique, aujourd'hui, on dirait une pensée sécularisée, quoi. Hein. Alors, une pensée, laïque, voilà. Ça a été, et en ce sens-là, hein, y a évidemment beaucoup de points communs avec le marxisme, mais l'idée, donc, c'est intéressant de voir que la façon dont lui va repenser le marxisme, il va le faire aussi en ayant Machiavel en tête, y compris du point de vue de la terminologie du type philosophie de la praxis. La pratique, elle est déjà du côté de Machiavel. La théorie pour la pratique est déjà du côté de Machiavel. Alors, septième point qui donc un peu plus tard, en 31, en septembre 31, à travers la lettre que vous avez dans l'exemplier, est un approfondissement du troisième point. Hein. Et donc, là aussi, je passe très vite, parce que là-dessus, Jean-Claude va revenir. C'est l'idée selon laquelle Machiavel a été le premier jacobin italien. Machiavel a été le premier jacobin italien. Tout ça, jacobin, dans quel sens ? Au sens où, et là, le mot est bien clairement énoncé, il a voulu organiser l'hégémonie la ville sur la campagne à partir du travail d'organisation de l'armée. Hein. C'est-à-dire que la question militaire n'était pas seulement une question militaire, c'était une question politico-militaire. L'alliance avec la campagne, avec les campagnes, avec les paysans, pour qu'ils puissent constituer l'armée de la cité, c'était une alliance pleinement politique aussi, dans un sens jacobin. Ça a été le premier jacobin italien. Voilà. On arrive au point maintenant auquel je voulais arriver, qui est 1932, qui est le début de 1932, début de l'année 1932, qui est vraiment un grand tournant dans toute l'histoire de la rédaction des cahiers, parce que c'est le moment où se met en place ce que va être l'organisation des différents cahiers spéciaux, hein, des différents cahiers spéciaux ou dits cahiers thématiques, hein, donc à partir du cahier 10, sur Crouch, et du cahier 11 sur la philosophie, du cahier 12 sur les intellectuels, du cahier 13 sur Machiavel et la politique. Voilà. Et puis un certain nombre d'autres cahiers plus tard, mais là, ce sont les principaux et les premiers. Alors, c'est précisément à partir de début 32 qu'on voit dans les cahiers cahier 8 et cahier 9 en particulier, hein, qui sont là des cahiers miscellanés, hein, qui ne sont pas encore des cahiers spéciaux, mais qui sont des cahiers écrits à ce moment-là, début 32. De nouveau, Machiavel devient très très présent, très 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 important, et systématiquement relié aux questions politiques. C'est-à-dire qu'en gros, dès qu'il s'agit de théorie politique, de stratégie politique, de liens d'alliances politiques dans une optique révolutionnaire, etc., Machiavel est présent, et il devient, à ce titre, de plus en plus, titre de rubrique. Hein. Titre de rubrique, les rubriques, c'est-à-dire ce titre, au-dessus de grand paragraphe à chaque fois, hein, Machiavel, vous allez commencer à avoir à ce moment-là des rubriques Machiavel, des notes avec la rubrique Machiavel, où il ne parle pas du tout de Machiavel. Il ne parle pas du tout de Machiavel. Mais il faut savoir que ça devient voilà, la métaphore ou la métonymie, comme vous voulez, de la politique dans son ensemble, de la science politique, quoi. Et une note qui est extrêmement importante, c'est la note 21 du cahier 8, hein, qui date du tout début de 32, janvier-février 32. C'est cette note où apparaît pour la première fois à la fois l'expression « moderno principe », hein, donc non plus le prince nouveau, nouveau prince, qui était d'une certaine manière... Vous avez vu que ça, on l'a assez tôt, on l'a déjà en 1930. Mais le prince moderne, hein, là, qui est vraiment l'expression typiquement gramscienne, l'autre ayant déjà été prince nouveau, c'est déjà la manière que Machiavel lui-même allait s'exprimer en parlant de prince nouveau. Là, c'est un titre de rubrique. Hein. Toute la note 21 s'intitule Moderno Principe. Voilà. Et alors, il explique hein, dans cette note-là cette notion extrêmement importante, c'est-à-dire que le prince moderne à entendre. Le parti, hein, bien sûr, est l'agent de la création d'une volonté générale, d'une volonté collective, nationale, populaire. C'est pas volonté générale, d'ailleurs. C'est volonté collective, ou volonté, plus précisément, volonté collective, nationale, populaire. Et pour cela, il faut un prince moderne, mais prince entendu, cette fois, prince moderne peut être entendu en deux sens, c'est-à-dire que c'est le prince, la personne du prince qui devient l'entité collective qu'est le parti, hein, clairement, en l'occurrence, où c'est ça qu'il dit, mais très souvent, et d'ailleurs au tout début, ce qu'il dit en premier, c'est le prince, au sens du titre de l'œuvre, le prince. Le prince de l'œuvre, le prince de Machiavel. Et là encore, c'est l'idée qu'il faudrait faire un travail, hein, écrire un livre qui soit comme le prince de Machiavel, c'est-à-dire un livre vivant, écrit-il. Entre guillemets, bien sûr, où l'idéologie devient mythe, c'est-à-dire, mythe entre guillemets, c'est-à-dire image, entre guillemets, fantastique et artistique, entre l'utopie et le traité scolastique, où l'élément doctrinal et rationnel se personnifie dans un comte d'Authière, dans un chef, qui présente plastiquement et de façon anthropomorphique le symbole de la volonté collective. Et dans cette note, Machiavel insiste beaucoup sur ces éléments d'image, d'imagination, de passion, hein, d'émotion suscitée par le texte lui-même qui fonctionne comme un mythe. Alors, comme un mythe, c'est-à-dire comme un mythe au sens sorélien, plus exactement, comme un mythe, la façon dont Gramsci se réapproprie la notion de mythe chez Sorel. Le mythe ultime chez Sorel, le mythe, mythe du syndicalisme révolutionnaire, c'est la grève générale. C'est la grève générale qui est cet horizon qui doit animer et susciter les passions d'un collectif qui s'engage dans une action voilà, révolutionnaire de masse qui, là, pour le coup, chez lui, n'est pas du tout pensé comme médiatisé par le parti. Hein. Mais il pense cette idée de mythe à partir de différents mythes, mais d'abord au mythe chrétien, le christianisme. Le Christ, la vie du Christ, la passion du Christ, c'est un mythe au sens, ce qui veut dire non pas, il ne dit même pas mythe au sens où ça n'a pas existé, ou c'est pas historique, non, c'est pas dans ce sens-là. C'est un mythe au sens où c'est quelque chose qui unifie et suscite les passions collectives qui fait que tout le monde va dans le même sens.
Ouais, il peut s'identifier. Une action, hein,
voilà. Ouais, il peut s'identifier. Voilà. Donc, à ce moment-là, en 32, Gramsci précise sa lecture du prince et ce qu'il entend par prince moderne en le liant à cette notion sorelienne de mythe, en disant voilà, la force du prince, elle est là. C'est-à-dire que c'est un texte qui est éminemment passionnel et qui contient une force d'entraînement qui peut susciter l'action collective, etc. Et il le précise, il va le préciser plus tard, au moment où il réécrit cette note. Alors, cette note qu'il réécrit, ça devient, donc la note dont je parlais là, c'est la note 21 du cahier 8, d'accord ? La note 21 du cahier 8, qui va devenir la première note, la longue note initiale du cahier sur Machiavel et la politique, du cahier 13. La note 1 du cahier 13. Et quand il écrit cette note 1 du cahier 13, il modifie certaines choses, il en ajoute d'autres, et il ajoute ceci, hein, c'est la dernière citation que vous avez là. Qui précise cette notion de prince comme les éléments passionnels, mythiques, contenus dans l'ensemble du petit volume, avec un mouvement dramatique qui fait grand effet, sont résumés et deviennent vivants dans la conclusion, dans l'invocation d'un prince existant réellement. Il fait référence au chapitre 26 du Prince, qui est effectivement un chapitre qui est très très fortement animé par un souffle qui porte vers l'action, qui est un souffle à la fois poétique et en même temps qui est là pour inciter le prince nouveau, hein, à prendre les armes, à prendre ces armes qu'il aura constituées en tant qu'armes propres, c'est-à-dire comme armes non mercenaires, quoi, hein, pour bouter les étrangers dehors, quoi, pour libérer l'Italie, hein, et pour créer ce nouvel État. C'est à ça qu'il fait référence ici, et c'est dit-il, ce chapitre 26-là qui donne tout son sens au prince. Ce qui est vrai, ce qui est parfaitement, ce qui est une interprétation avec laquelle, pour notre part, on est parfaitement d'accord. Hein. Et voilà, sa conclusion, c'est un cri passionné, un grido appassionato, immédiat. La passion, de raisonnement sur elle-même, hein, qu'elle a été pendant un certain temps dans l'écriture du prince, redevient, donc au chapitre 26, affetto, hein, affect, fièvre, fanatisme d'action. On n'aime pas ce mot-là. Hein,
c'est ça qui met.
Ouais. C'est bien ça qui met. C'est bien ça qui met. De la même manière que cette action ailleurs, on dit que ça doit être une foi. Quoi. Hein. Et voilà. Donc, on aboutit à ça. Avec cette idée-là, après il y a encore d'autres choses qu'il va dire sur Machiavel qui sont toutes intéressantes et pertinentes, mais là déjà j'en ai sélectionné un certain nombre, je ne vous ai pas tout donné, mais c'est ça qui va définir en gros ce qu'il entend par le prince moderne, et c'est à partir de ces différents éléments-là qui pense la politique au-delà même de Machiavel, hein, puisque Machiavel devient le nom de toute sa façon de penser la politique.